pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Un lycée, un hôpital, un tribunal. Le lycée Fourier à Auxerre, l'hôpital de Die dans la Drôme, le tribunal de grande instance à Marseille. Place de la République, c'est tous les lundis dans les pieds sur terre, trois institutions pour regarder la France pendant cette année électorale. À Auxerre, nous continuons aujourd'hui avec Laurette, qui a intégré la section arbitre de ce lycée de 2500 élèves. Depuis lundi dernier, Laurette s'est remise de sa blessure, mais être la seule fille sur 37 élèves finit, on aurait pu s'en douter, par déborder un peu. Heureusement, le prof d'arbitrage est là pour réagir dans l'urgence. À l'hôpital de Die, dans la Drôme, Die et ses 4500 habitants, il y a aussi urgence, mais au sens propre. Ici, le service des urgences ne totalise pas plus de 8000 prises en charge par an, parmi lesquelles de nombreuses personnes âgées qui tombent, des accidentés de la route ou de la montagne, des bébés qui font leur première grosse fièvre, et parfois d'anciens braqueurs venus se mettre au vert après avoir eu une vie de bandit de cinéma. Au tribunal de grande instance enfin, Isabelle Gorce, la nouvelle présidente, fait son discours d'intronisation. À la cafétéria, après, à la cantine, en gros, les juges commentent, comme il se doit, le discours de la nouvelle chef. La justice est-elle violente? C'est une des questions qui se posent. Urgence, violence, c'est donc le fil entre les trois histoires que vous pourrez écouter. Jusqu'à 14h dans les pieds sur terre, place de la République, 5e épisode. Une série de reportages de Pauline Mocor, Olivier Minot et Pascal Pascariello.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Par contre, ça serait bien d'enlever tes bacs quand tu fais du sport, ma petite.
Oui ou non?
Il y a Laurette qui s'est blessée. Elle est tombée.
Dans la boîte, j'ai pris un couteau qui coupe le citron là avec. On se retrouve avec.
Donc. C'est pas ma faute à moi parce que c'est lui qui a fait ça. Mais pour moi, je m'en veux. Parce que lui va rentrer en prison. T'as moi aussi.
Un jour, un élu m'a dit que nos femmes ici accouchaient dans un 3 étoiles. Je lui ai quand même répondu que tout le monde devrait accoucher dans un 3 étoiles. C'était l'avenir.
Lycée Fourier, bonjour.
Quentin, t'en penses quoi quand le gars il a fait un rappel à l'heure d'un 8e et à la 12e? Tu te dis quoi?
Le match est tendu déjà. Ça est tendu.
Ensuite?
Il y avait déjà 6-0 à la mi-temps.
D'accord. Laurette, il y a 6-0 à la mi-temps. Qu'est-ce que tu te dis?
À la seconde mi-temps, ça va être l'autre équipe va vouloir se battre pour essayer de mettre un maximum de buts.
On peut être d'accord. Tu peux dire qu'il y a une équipe qui va revenir à bloc parce qu'il faut qu'elle remonte 6 buts. Ou alors, qu'est-ce que tu vas te dire?
Qu'elle va essayer de faire le vote des fautes pour...
Donc, tu as 3 scénarios possibles. Et tu rentres en seconde période avec ces 3 scénarios dans la tête. Soit ils vont lâcher complètement, soit ils vont être énervés, ils vont faire des fautes, soit ils vont se battre dans les règles pour revenir. Maintenant, là, il nous reste un quart d'heure, 20 minutes. Je vais délivrer un message à tout le monde. Et après, je vais m'entretenir avec 2 personnes. Quand on est là, tous les 9 là, enfin 10 même, on fait un peu la famille. On est un peu une famille d'arbitres. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ouais. Est-ce que c'est normal qu'on puisse s'attaquer des fois les uns aux autres? Oui ou non? Non. Impossible. De quelque manière que ce soit de vive voix, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur je sais pas quoi, c'est impossible. Si on a des problèmes entre nous, eh ben, on vient, on en parle avec Alex, on dit, ça m'est arrivé les années d'avant qu'il y ait des arbitres qui, à un moment donné, ça n'allait pas, ils venaient m'en parler, on réglait ensemble. Mais on ne s'attaque pas gratuitement comme ça dans notre famille. Il y a autre chose, c'est qu'on a une fille sur 37. Tu fais quoi, Eric, si je vais voir ta mère et que je l'insulte? Tu réagis comment? Comment?
Pas trop bien.
Pas trop bien. Toi qui as souvent des copines, Thomas, comment tu réagis si je vais voir ta copine et que je lui parle mal? Tu dis quoi?
Pas bien non plus.
Pas bien non plus. Tu vas réagir ou pas?
Oui.
Oui. Ok. C'est trop facile d'attaquer une fille comme ça, toute seule, etc. Donc on se défend les uns les autres. Si quelqu'un attaque la fille du groupe, vous êtes les premiers à la défendre. Et celui qui continuerait dans ce sens-là, il sort du groupe tout seul. Est-ce que mon message est clair? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Tu m'attends dehors Et tu viens parler avec moi, les autres, vous pouvez y aller, on se retrouve à 13h. Tiens, assieds-toi. Juste que tu m'expliques ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, etc. Dis-moi.
Au départ, ça partait, on va dire, depuis la semaine dernière, ça partait plutôt bien. Et puis, il se met à me faire, entre guillemets, des petits pics. Et puis, il y a un moment donné où, dans le train, vendredi soir, il a demandé aux arbitres est-ce qu'il y avait déjà eu des conflits entre eux en seconde. Et il est venu sur le sujet de nous deux en disant de toute manière, au bout d'un moment, si ça va pas bien avec moi et Laurette, ça finira qu'au bout d'un moment, on se tapera dessus, quoi.
Ok. Comment tu l'as vécu, toi ?
Direct, j'en ai parlé à mes parents.
Ouais.
Et puis ils n'ont pas trop accepté, donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à me dire d'en parler.
D'accord. C'est normal d'en parler ou pas ?
Oui.
Oui, c'est normal. Faut pas que t'aies des larmes, hein. C'est normal d'en parler. Quand il y a quelque chose comme ça, dis-moi. Et tu peux pleurer, il n'y a pas de problème. Tu peux vider ton sac.
En fait, je vais vous dire un truc. Le souci, c'est que l'année dernière, j'ai vécu un harcèlement. J'ai essayé, c'est pas pour revivre la même chose, donc j'ai pas envie que ça retombe dans un harcèlement, quoi.
Mais faut pas que t'aies peur, parce que quand tu m'envoyais des SMS, tu me dis mais je veux pas faire d'embrouille, etc. Mais c'est pas toi qui fais d'embrouille, c'est la situation qui fait ça, donc ne prends pas la faute sur toi.
Je sais, mais moi je sais très bien qu'il va dire que. Enfin, il va tout remonter sur mon dos. Je le connais très bien.
Tu crois qu'il va remonter sur
mon
dos ?
Oui, parce qu'il m'a envoyé des messages en me mettant viens, on va s'expliquer à Alexandre et au coach, comme quoi il n'y a pas que moi qui a subi des âneries et tout ça, et qu'il ne sache pas que ta version qu'il m'a mis.
Maintenant, s'il vient s'excuser ou quoi, il faut que toi aussi, que tu acceptes ses excuses.
Ah, mais moi, c'est ce que j'attends.
Lui c'est pas ceux qui étaient là-bas l'année dernière. Non. On est dans un contexte différent, dans un lycée différent.
Mais moi, c'est
dans
une culture différente. Je suis venue là pour retrouver justement une famille où justement c'est là où on s'entraide, quoi.
Tu vois, t'es d'accord avec moi, c'est le message que j'ai fait passer. Donc on est sur la même longueur d'onde. Ok ? Maintenant, je vais le recevoir lui, tu discutes un peu avec lui, et puis après, tu verras comment ça se règle par la suite.
D'accord.
Et tu me diras, tu me tiens au courant. Et n'aie pas peur de m'en parler comme tu as fait, c'est très bien.
D'accord.
Parce qu'on règle les problèmes, plutôt que de rester en difficulté, qui vont nuire au groupe, qui vont nuire à chacun, etc. Et ça, c'est pas bon. Bon, assieds-toi.
L'histoire qu'il y a eu avec Laurette.
Alors, qu'est-ce qu'il y a eu, dis-moi ?
Il y a eu qu'au début, je l'ai taquiné un peu, comme dans la section, on se taquine, quoi. Et elle l'a mal pris, et elle me l'a pas dit, et après j'ai continué, puis ça a dégénéré.
Alors, qu'est-ce qu'il y a eu exactement ? Donne-moi les points. Est-ce que le discours que j'ai fait, là, il était pour qui ?
Pour moi, je sais.
On dédramatise, hein. D'accord ? Mmh. On est en train de s'expliquer. On est entre grands, là, d'accord ? Je te fais, entre guillemets, la leçon, mais c'est pour parler que ça te serve et que ça te fasse grandir.
Je sais. Mais...
T'as besoin de grandir, et c'est normal, t'es un tout petit gamin, les étoiles plus mérichons du truc, là. Un petit. L'histoire des mécènes ou des messages ou quoi, c'est quoi ?
En fait, on a tous un surnom sur Facebook et elle n'en avait pas. Et là, j'ai dit, viens, on met ça. Et puis après, j'ai marqué une insulte. Et après, j'ai dit, non, et au lieu d'appuyer sur annuler, j'ai envoyé appuyer sur envoyer. Et du coup, après, on a enlevé le surnom. Mais l'erreur, c'était déjà.
Imagine-toi, mets-toi à sa place, elle était harcelée. Oui. Ici, ça commence, on lui tape un peu dessus au début. En plus, c'est la seule fille du groupe et machin. Et... C'est difficile pour elle. Tu comprends ?
Oui, je comprends.
Le mieux, ce serait que tu fasses quoi, tu crois, ce soir ?
On a déjà parlé, en fait, avant.
T'as déjà parlé ?
On a parlé ce matin, puis on a parlé un peu de ce midi aussi.
D'accord. Oui. Alors moi, comment elle vit les choses, elle se sent pas... Elle voit bien que t'es venu vers elle, mais qu'est-ce qui serait encore plus fort ?
Que je m'excuse.
Ah, vraiment ? Donc si tu vas la voir, tu lui dis, Laurette, je voudrais te parler, voilà, on s'est mal compris au départ, etc., blablabla. Après, tu fais ce que tu veux, je vais pas te dire à ta place. Mais les yeux dans les yeux à quelqu'un, des fois, il faut savoir mettre un peu sa fierté de côté.
Oui.
Tu vois ? D'aller la voir, de faire des vraies excuses et dire machin. Et après, ça va rouler. Et le jour où on va l'attaquer, elle, le premier à la défendre, ça va être qui ?
Moi.
Oui, ça va être toi. C'est sûr, ça va être toi. Sur ce, bonne soirée.
Bonne soirée.
À tard plus, à demain. Allez.
Ok, au revoir.
Salut. Merci.
En fait, au départ, voilà, j'y prenais à la légère parce que des réflexions Des fois, c'est pour rigoler. Donc voilà, j'y prenais à la légère. Mais au bout d'un moment, bah, ça a commencé à plus trop me plaire. Donc j'ai commencé à plus trop rigoler. Et vu que l'année dernière, bah, j'ai subi un harcèlement, je voulais pas que ça retombe là-dessus. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai tout de suite voulu alerter. Parce que l'année dernière, j'ai fait la bêtise d'attendre un mois avant d'en parler. Et la preuve, j'ai bien fait parce que maintenant, tout se passe bien, quoi. L'année dernière, j'ai fait ma rentrée en 3e 4. Et un mois après la rentrée, moi et une fille, on s'est un peu disputés. Et un de ses amis n'a pas accepté qu'on se dispute. Donc, il a commencé à s'en prendre à moi. Tout le groupe m'a laissée toute seule. Et je suis rentrée à la cantine normale. Je sortais avec des légumes sur la figure. Je passais le portail du collège en me disant « qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ?» Et ça, je l'ai caché pendant bien un mois. Je mangeais plus rien, à part une fourchette de riz, c'est tout. Donc du coup, bah, c'est comme ça que mes parents ont découvert que bah, j'avais plus la joie de vivre. C'est comme ça qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je bossais plus en cours parce que du coup, bah, ça me prenait toute la tête. Donc je m'étais dit, de toute manière, au bout d'un moment, je vais m'enfermer dans mon secret. Mais ils découvriront bien comment ils vont me retrouver. Pour moi, la seule solution pour que je les emmerde plus du tout, c'était de me pendre. Et du coup, bah, mes parents ont pris peur. Donc, j'ai pas été pendant 2 semaines ou 1 semaine et demie à l'école. Parce que du coup, ma mère voulait plus me mettre à l'école avec ce qui s'était passé. J'ai été en dépression, donc j'ai eu des cachets et tout ça. Et mon médecin, il me voyait presque régulièrement pour voir si ça allait mieux ou pas. Et du coup, bah, grâce à ces histoires, je me suis rebranchée dans le foot, qui m'a permis de me sortir des émotions. Parce qu'à chaque fois que je tapais dans un ballon, je me disais que bah, c'était les têtes de chaque gens. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça m'a remonté le moral. Donc je shootais dedans juste à temps qu'il n'y ait plus de tête.
Hôpital de Die, bonjour.
Là, ça va être à vous pour voir l'infirmière d'accueil. Après, pour voir le médecin.
Je peux vous embêter un petit peu avec mon micro? Je fais un reportage sur l'hôpital.
Je suis pas trop hôpital, moi. C'est rare quand je viens. Je viens une fois tous les 5 ans. Toi.
Tous les 5 ans, vous venez à l'hôpital? Là, la dernière fois,
je là, c'est pour mes jambes. C'est comme je fume de trop, les artères, machin. Ça fait mal, quoi. Je peux pas marcher. J'habite à 300 mètres, toi. Et pour venir, avec une canne, je suis obligé de m'arrêter tous les 10 mètres. Heureusement que j'ai une béquille, encore. C'est comme je fume de trop, les artères, machin, ça fait mal, quoi. Et c'est pour ça que je me suis forcé, parce que j'ai vraiment mal à venir à l'hôpital. Parce que, tu sais, quand t'as eu la vie que j'ai eue, moi, je suis pupille de la Nation de Paris. J'étais abandonné par mes parents à l'âge de 4 mois. De nourrice en nourrice, quoi. Trimballé à gauche, à droite, dans les quatre coins de la France. Puis les derniers, c'était des Polonais, qui avaient bien du mal à parler français, tu vois. Et alors donc, il a fallu que je me démerde seul, avoir une chambre en ville à 17 ans. Puis bon, il fallait bien que je mange, je vive. J'étais apprenti métallier, mais tu vois... Apprenti, j'ai gagné combien? 300 francs par mois, 3e année. J'ai commencé par les cambriolages, une condamnation, 6 mois ferme, après braquage sur braquage. Et j'ai commencé comme ça. Et j'ai fait une prise d'otage dans la Sarthe, le milliardaire de la Sarthe, Henri Lelièvre. Il y avait Mérine, évidemment, qui était à l'origine de tout ça. Et il y a une rançon, 500 et quelques millions. Je fais le commissionnaire un peu. J'ai pris 3 ans pour ça. Hein. J'étais fiché au grand banditisme. J'ai fait 17 prisons différentes. Tu vois.
Pendant 20 ans
22.
22 ans en prison?
Ah oui, fait jour pour jour. Si j'avais pas eu de remise de peine, j'aurais fait 40 ans. Ouais. J'étais interdit dans 17 départements en France. C'est à l'époque de Mérine, quoi. Jacques Mérine, tout ça. J'ai connu. QHS de Lisieux, quartier de haute sécurité. T'es seul, c'est espacé de 7 cellules, la table scellée, tabouret scellé.
Vous avez essayé de vous échapper ?
Deux fois, ouais. On a fait une prise d'otage à Liseux, on était à 3. Ça commence à 10h30 du matin. C'est moi qui ai pris les couteaux, malgré qu'il y avait une grille devant la cuisine, mais ce jour-là, elle était ouverte. Je me rappelle, j'avais enfermé sur un poison, il faisait pas loin de 2 mètres, et champion de karaté. Faut pas avoir peur dans ces cas-là, hein, tu penses. Je l'ai enfermé à clé, ça s'est terminé vers 14h30 à peu près de l'après-midi. La porte de la prison a été ouverte, on n'a pas eu le temps de tous coucher par terre. C'est CRS, des coups de savate, des coups de rangers dans la gueule. Puis en plus, ils ont essayé un nouveau gaz, 25 kilos de pression. Ça nous a accouchés tous les 3. Ça m'a coûté 3 semaines dans le coma. Puis depuis, j'ai les poumons. Ah oui, parce que les poumons nous ont pris un coup. Et à 16 ans, je suis sorti de prison. J'ai quitté Paris pour oublier mon passé. C'est pour ça que je suis attiré là, il y a 16 ans.
Pourquoi oublier ?
Quand t'es sollicité, des coups de fil à gauche, à droite, on vient te voir tous les jours, tiens, j'ai un plan, mon tuyau, là, un petit braquage. J'avais fait 22 ans, j'ai dit stop, c'est bon.
Qu'est-ce qu'ils vont vous faire pour cette jambe, vous pensez ?
Moi, j'espère qu'ils vont me penser Mario, parce que ça me fait mal, hein. Physiquement, tu me vois faire un braquage, courir là, avec mes jambes. Je suis toujours amoureux du fric, c'est clair. Mais faire le con, je pourrais plus. Je suis en retraite, 64 ans. Et voilà, je suis là, je touche ma retraite. Et retraite de voyou. 800 euros par mois, c'est tout.
C'est la retraite de quoi, du coup ?
J'ai travaillé en prison, quand même. Hein. Je travaille à peu près 17 ans en prison, 7 ans dehors. C'est un minimum vital.
Vous n'avez pas de famille ? Vous n'avez pas de...
Si, si. 3 enfants avec 3 femmes différentes. Ma fille ne me parle pas par rapport à mon passé. Mon fils, il m'a retrouvé il y a 3 ans. C'est par Internet. Et il est venu me voir. J'étais le voir en Normandie. Puis il ne m'a jamais parlé de mon passé, jamais une remarque. Au contraire, il a fallu que... Je raconte ma vie, mes braquages, mes galères, mes joies. Puis il était content de me revoir, de me retrouver. Je suis resté en bon terme avec lui. Toi. Ma fille, par contre, elle m'appelle le pseudo-caïd. J'étais plus souvent avec les amis à faire le con, des braquages, machin et tout, qu'à s'occuper de mon ex, la mère de ma fille. Quoi. Ça m'ennuie, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. J'ai joué, j'ai perdu. Je regrette rien. Ça fait 16 ans que je vis seul, tu vois. C'est habitué. Mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une compagne quand même qui m'épaule, qui me soutienne pour les courses, le ménage, puis voilà. Qui je donnerai peut-être mon cœur, je sais pas. J'ai pas vraiment connu ça dans ma vie. Hein. Je sais pas trop. Je regarde beaucoup la télé, la musique, chez moi. Je suis seul en immeuble. J'ai un chat que j'aime beaucoup, qui m'apporte de l'affection. Puis moi aussi. Il est mignon comme tout. Puis, ici, on s'emmerde un peu, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je me socialise. Mais là, je vais voter pour la première fois de ma vie. Je n'ai jamais voté de ma vie.
Ah bon ?
Ben non. Ben, j'étais interdit de voter à l'époque.
Alors, vous avez voté quoi ?
Moi, Mélenchon me plaît bien, Macron me plaît bien. Macron, c'est à gauche, à droite, il est au centre, on sait pas. Si, il est un peu comme Bayrou. Mélenchon, j'aime bien parce qu'il a de la gueule, toi. Il a peut-être plus d'expérience que Macron. Bon, je sais pas, j'hésite.
Non, vous avez mal aux jambes ?
Ouais.
Vous allez venir vous allonger ?
Oui.
Vos chaussures ?
Ce qu'il faut pour avoir moins mal. Bon, j'ai appris que j'ai un souffle au cœur, c'est les artères qui sont bouchées. J'ai rendez-vous le 14 janvier. Le 14 janvier pour passer des radios. Il m'a dit c'est un genre de phlébite. Et dès que je sens plus ma jambe, il faut que je vienne à l'hôpital. N'importe quelle heure de la nuit. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. On va pas pleurer pour si peu.
France Culture, les pieds sur terre.
Veuillez vous lever, s'il vous plaît, le tribunal.
Il est temps maintenant, Madame la Présidente, que je vous invite à prendre place au siège qui vous est réservé.
D'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur le Ministre, de faire l'honneur à cette juridiction et à ma personne de votre présence pour cette audience solennelle d'installation. Il est évident qu'une juridiction aussi sensible que celle de Marseille ne peut que se réjouir de pouvoir compter sur ce soutien, non seulement pour faire face au quotidien de son activité, mais surtout pour répondre aux enjeux actuels de la lutte contre la délinquance organisée, avec ce qu'elle peut comporter aujourd'hui de risque de ramification dans les réseaux terroristes. Le Conseil supérieur de la magistrature m'a fait confiance pour présider cette juridiction. Je mesure l'honneur qui m'est fait et aussi le défi que cela constitue. Chers collègues, comme le dit de façon sentencielle Dom Pélage dans Le Soulier de Satin, on n'aime pas un juge. Notre métier a quelque chose de violent. Nous sommes exposés quotidiennement à des situations dramatiques, à la souffrance, à la misère, et nous exerçons nous-mêmes sur les personnes une certaine violence, même s'il s'agit d'une violence légitime. La justice n'est pas une institution parfaite. Elle est rendue par des personnes, pour des personnes, et on en attend sans doute plus qu'elle ne peut donner. Le drame, la violence, notre pouvoir normatif nous expose de façon constante à la critique. Il n'est donc point question pour nous d'être aimés ou de plaire. Nous ne devons avoir peur ni de notre autorité, ni de notre pouvoir. C'est un exercice délicat d'équilibre, car nous devons également défendre cette évidence que la justice n'est pas le domaine des certitudes mathématiques ou de la prévisibilité absolue du risque, notamment lorsqu'il s'agit des comportements humains. Je souhaiterais vous dire, pour conclure, que ma seule ambition est qu'unie par l'exercice d'une même mission fondamentale, nous donnions de la justice judiciaire, dans ce ressort, une image, mais aussi une réalité, conforme aux attentes légitimes de nos concitoyens, et qu'ensemble, nous puissions être fiers d'accomplir la mission qui nous est dévolue par la Constitution et par la loi, de prendre ainsi notre place dans la vie de notre démocratie et participer au maintien de la paix sociale.
C'est, allez, on le dit, Delphine,
ouais,
c'est the girl power, là. Hein. Vous avez compris, j'espère.
Vous avez entendu le discours. C'est l'arrivée d'une nouvelle ère.
Voilà, c'est the girl power.
Enfin, nous, on est contents de voir arriver une présidente à la tête d'une juridiction. C'est la deuxième juridiction de France aussi. On se rend compte que derrière, la majeure partie de l'effectif est féminin quand même.
Bon, les filles, venez, on va grignoter quelque chose. Il n'y a plus rien, il n'y a même pas de sucre. Oh.
Et peut-être qu'il était là en tant que prévenu, il n'était pas convoqué.
J'ai trouvé que c'était un discours plein de dynamisme, d'entrain et d'enthousiasme. Parce que je pense qu'il faut que l'on reste enthousiaste par rapport à ce beau métier que l'on exerce. La présidente a expliqué qu'elle, au vu justement de la difficulté de notre travail, elle ne tolérerait aucune critique ad nominem contre les membres du tribunal de grande instance de Marseille. Et ça, c'est un message très fort qu'elle nous envoie. Mais la violence de la justice, non, moi je n'emploierai pas ce terme. Je ne pense pas que c'est une violence. D'abord parce que, bon, évidemment, nous sommes encadrés par des textes, etc., etc., et qui sont votés, et que j'estime qu'on est en pleine démocratie. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on n'est pas en... Enfin, c'est pas possible, quoi. Hein. Je veux dire, on applique des textes qui ont été votés, etc., etc. Donc, moi, je ne dirais pas que l'application de la loi peut être violente. Non, je ne pense pas. Même si, effectivement, on a mis hier 4 ans à ce jeune homme, âgé de 22 ou 23 ans, qui avait déjà eu quelques condamnations, mais qui n'avait jamais été incarcéré, et qui, sous le coup de l'alcool et puis d'une violence complètement gratuite et d'une espèce de déchaînement de fureur, a violenté 3 jeunes filles, dont une qui a eu une double fracture de la mâchoire. Bon, c'est une sanction qui est lourde, une sanction qui est dure, mais violentes. Je ne qualifierais pas nos décisions de violentes. Parce que pour moi, la violence, ça a quelque chose quand même de soudain, ça a quelque chose d'illégitime quelque part. Viens, Christine. Alors, je vous présente Christine May, qui est présidente de la 6e chambre correctionnelle.
On est en train de parler du discours de la nouvelle présidente.
Moi, j'ai beaucoup apprécié ce discours. C'est comme disait la présidente, hein, la justice, elle est faite par les hommes et elle juge des hommes. Donc, effectivement, ça dépend de la personnalité, par exemple, d'un président d'audience. Donc, on n'est pas exemple, quand on entend un prévenu, une victime, etc., d'éprouver de la compassion, de l'empathie, de la compréhension, même d'un prévenu. Parce que c'est ça, la justice. Parce que c'est pas ouvrir un code, appliquer un code d'une manière totalement... Sans prendre en compte le contexte. Et moi, je sais que dans les procès, pourtant que je juge économique et financier, ça paraît quelque chose de très ardu, etc. Mais moi, je m'attache toujours à comprendre les personnes qu'on va avoir devant nous, qui elles sont, quels sont les enjeux, qui tient le pouvoir, quoi, comment. Ça, c'est essentiel. Et après, effectivement, il y a tout le côté juridique, des infractions elles-mêmes, des éléments constitutifs, où là, il faut recadrer, parce que la décision dépendra de la caractérisation de ces infractions. Mais tout le contexte, tout ça, c'est important. Je pense qu'on ne peut pas l'évacuer. Voilà.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Place de la République, 5e épisode, nommé Urgence, un reportage de Pauline Mocor, Olivier Minot et Pascal Pascariello, réalisé par Cécile Lafont. Merci pour le lycée, bien sûr, à Laurette, à son prof d'arbitrage et aux élèves de la section d'arbitrage à l'hôpital. Merci à Richard et à Francine et au tribunal. Enfin, merci bien sûr à la juge Paule Colombani et à Isabelle Gorce. Sandrine Chaperon, nul ne l'ignore, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Vous savez aussi que nous avons une merveilleuse page Facebook ainsi qu'un compte Twitter qui attendent tous les deux likes et followers en grand nombre. Voilà, n'hésitez pas à partager notre travail ou bien à le commenter. Well, I'm still fond of you. Uh-huh.